Et à tous.
Et bonsoir.
Nous sommes le mercredi 6 janvier, il est 19h passé pile de 4 minutes, c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir, toutes les mesures de l'état d'urgence et de sa prolongation, la déchéance de nationalité, ça va chier.
L'état d'urgence.
Le renforcement des pouvoirs de la police.
Une personne, alors bon, après on sort de l'état d'urgence, hein, on revient dans la vie normale, quelqu'un qui est condamné pour délit de solidarité.
En Centrafrique, force d'occupation, pédophilie et élections France-africaines.
Médias libres, les bons conseils du Canu Info du mercredi pour l'année 2016.
Et puis les femmes de la Saint-Sylvestre.
La pause pipi qui est retenue sur salaire, on aura une petite explication.
Une petite histoire de la colonisation dans l'Afrique australe.
Et puis voilà, et puis après ce sera un petit peu les derniers petits trucs, quoi.
Peut-être un coup d'agenda.
Mais ils n'étaient pas si nombreux que ça, sinon on aurait pu attaquer la police, hein, c'est sûr. On aurait été assez nombreux pour les attaquer et les repousser.
Alors, la déchéance de nationalité, ah là là, mais nous... Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait plus fait de Canu Info. Et pendant tout ce temps, tout le monde entier s'est déchiré là-dessus. Alors, c'est quoi l'actualité d'aujourd'hui? C'est que Nicolas Sarkozy préfère une déchéance de nationalité qui serait limitée aux binationaux. Contrairement à ce qu'avait proposé François Hollande, Manuel Valls, qu'est-ce qu'on sait de l'étendre à tout le monde? Après, Elisabeth Guigou, s'il voulait l'étendre à tout le monde. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui trouvent qu'une déchéance de nationalité, c'est bien, c'est pas bien, peut-être qu'il faudrait la faire que pour les gens qui sont déjà étrangers, peut-être qu'il faudrait la faire pour les gens qui sont nés étrangers puis qui sont français, peut-être qu'il faudrait la faire pour les gens qui sont nés binationaux, peut-être qu'il faudrait pas vraiment faire une déchéance de nationalité parce que ça pose des complications juridiques, parce qu'on peut pas vraiment, on n'a pas vraiment le droit de créer des apatrides. Alors peut-être qu'il faudrait faire une indignité nationale, mais on ne sait pas exactement ce que c'est.
En tout cas, il y a le progrès, hein, c'est Rébellion qui nous dit ça. Il y a le progrès qui a trouvé la solution. Il demande à ses lecteurs et lectrices, la déchéance de nationalité est-elle une mesure efficace pour lutter contre le terrorisme? Et 65% des gens disent oui. Donc la conclusion de Rébellion, c'est que probablement 65% des lecteurs et lectrices du progrès sont pas au top dans leur...
c'est ça, c'est à peu près ce que j'allais dire, c'est que du coup ça veut quand même bien dire qu'ils sont vraiment complètement cons, parce que à côté de ça, tout le monde, je veux dire tous les gens, y compris tous les gens qui en parlent publiquement, les hommes politiques et tout ça, sont quand même à peu près tous d'accord pour dire que de toute façon ça va rien changer à rien de rien de rien, c'est-à-dire que quelqu'un qui a envie d'aller se faire exploser ou d'aller mitrailler je ne sais qui n'est pas extrêmement passionné par savoir s'il va pouvoir rester français après, dans la mesure où cette personne serait déjà française, enfin bon. Et alors voilà, en fait tout le monde prend position là-dessus, mais nous, vu d'ici là, ça nous semble quand même être une sorte de débat pour les gens qui ont vraiment qui accordent une valeur symbolique forte au fait d'être ou de ne pas être français. Mais alors en réalité... Moi, a priori, la déchéance de nationalité, c'est vraiment un truc dont j'ai rien à foutre dans aucune manière. Et par contre, de parler énormément de tout ça, de se demander si c'est compatible avec les valeurs de gauche, avec les valeurs de la République, avec les valeurs de droite, avec que sais-je, eh ben, ça fait que quand même, ça prend une énorme place par rapport à d'autres débats sur, par exemple, les rôles et les pouvoirs des flics, des juges, les rôles et les pouvoirs respectifs, hein, des flics, des juges, comment est-ce que les flics peuvent décider des choses avec ou sans les juges, des procureurs, des préfets, de gens qui sont plus ou moins l'État, de gens qui sont plus ou moins indépendants, de gens qui sont plus ou moins contrôlés par ci ou par ça ou nana. Et ça, par contre, ça serait, c'est des débats bon, qui existent aussi, hein, mais qui ont du coup une portée bien moindre. Et ça, c'est des débats qui, eux, ont des applications extrêmement concrètes sur nos vies, bien au-delà de là tout de suite, bien au-delà des histoires de terrorisme et de Daesh. Mais c'est vraiment pour les années qui viennent, et potentiellement les beaucoup d'années qui viennent, des débats qui sont extrêmement importants pour toute possibilité d'opposition politique.
J'ajouterais à ta liste quand même... toutes les personnes, le débat qui n'est pas un débat, mais très concrètement, toutes les personnes sans papier, sans papiers là sur le territoire français, qui s'en foutent ou pas de la déchéance de nationalité, qui veulent juste avoir une carte de séjour et qui sont en demande d'asile depuis des années pour certaines personnes.
Et puis ça vaut toujours le coup de rappeler quand même que toutes, en général, les mesures qui ont été prises, les espèces de mesures d'exception pour les terroristes, sont en général par la suite agrandies. Alors après ça devient pour les pédophiles et les espèces de crimes odieux. Et puis après, petit à petit, ça continue à déborder, puis ça va de plus en plus vers, enfin je sais pas, il y a l'exemple de l'ADN où maintenant, pour le moindre petit délit, on chope tes empreintes, ton ADN et tout. Du coup, c'est le genre de truc quand même qui se généralise un peu
de
partout.
Ou l'exemple de Vigipirate, hein, qui est quelque chose qui a été instauré dans les années 90 pour combattre une situation exceptionnellement risquée en termes de risque terroriste et qui a jamais été arrêté depuis, qui a juste été des fois un peu plus haute. Enfin, il y a du Vigipirate plus ou moins élevé, mais on a toujours vécu sous Vigipirate depuis.
Alors, vous faites une merveilleuse transition pour l'article dont je vais vous parler. Donc, c'est l'info autour du renforcement des pouvoirs de la police. Donc, puisque le gouvernement veut renforcer les pouvoirs du parquet, de la police et des préfets afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Alors, voilà, dans mon petit papier, comme tu viens de le dire, je revenais sur ce terme de terroriste qui a marqué l'année 2015, il faut bien l'avouer, et qui remplace le terme de, il y a quelques années, délinquant. Derrière ce langage, ces mesures donnent beaucoup de pouvoir à la police, même, on peut dire, beaucoup trop. Et il y a vraiment un glissement. Beaucoup de mesures sont appliquées au départ pour des personnes précises puis élargies, donc il y a vraiment, on peut le voir nettement puisque je vais vous décrire le projet de loi, un glissement entre terrorisme, crime organisé et délinquance. Voilà. Et voilà, qui sait ce que ça va emmerder en fait, c'est cette loi contre les terroristes, c'est plutôt pas trop des terroristes, c'est des personnes pas blanches, des pauvres, des marginaux, des sans-papiers, des mal logés, des squatteurs, des squatteuses, etc.
Alors pour aller un peu dans ton sens, on peut rappeler que l'étau d'urgence a été étendu aux Antilles, où on imagine très bien qu'il y a des grands projets terroristes sur ce territoire où pour faire arriver une bombe quand même c'est faut y aller hein. À mon avis c'est quand même un peu compliqué, mais le gouvernement a donc bien comme tu le dis étendu cette terminologie de chasse aux terroristes à un territoire qui finalement c'est peut-être complètement à côté de la plaque.
Et donc, pour vous faire une sorte de résumé, qui est un peu long, mais un résumé quand même. Donc, ce projet de réforme a été transmis au Conseil d'État et la plupart des mesures de l'état d'urgence devraient être intégrées dans le code pénal. Autrement dit, les pouvoirs extraordinaires deviendraient tout à fait ordinaires. Donc, même plus besoin de repousser l'état d'urgence à trois mois, de petit bon en petit bon. Alors, les honnêtes gens sont rassurés, les terroristes sont traqués, sauf que beaucoup ne savent pas que le « entre guillemets terroriste » est une figure, un épouvantail, pour faire passer des lois sécuritaires. Et ouais, mais parce que tout ce qu'on disait là depuis tout à l'heure, si on regarde, parce que c'est très concret, si on regarde de plus près les fichiers de police qui ont été mis en place et créés depuis des décennies, on voit qu'ils ont chaque fois été élargis. Chaque fois qu'un fichier a été créé, plein de gens qui avaient rien à voir, rentraient pas dans le cadre, ont fini par être mis dans ces fichiers. Et au départ, il y en avait un, maintenant il y a, je ne sais pas en fait le nombre, mais il y a des dizaines de fichiers différents où on peut être mis dès qu'on dépasse un peu du cadre du bon citoyen qui part au travail et qui ne dit pas ce qu'il pense, quoi. Bref, voilà. Alors, concrètement, pour certaines mesures, la justice est carrément mise à l'écart, puisque certains pouvoirs exclusifs des juges sont désormais accordés aux préfets et aux procureurs. Donc, jusqu'à présent, c'était les juges d'instruction qui pouvaient ordonner des perquisitions de nuit, placer des micros dans des appartements, utiliser des IMSI catchers. Du coup, c'est des petites valises qui sont capables de siphonner des mails et des conversations téléphoniques. Et désormais, les procureurs auront les mêmes pouvoirs dans les affaires de terrorisme, mais aussi dans les affaires de crimes organisés. Du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'en vrai, les flics, ils le faisaient déjà. Vous voyez, c'est tous des trucs qu'ils faisaient déjà sans que le juge ne leur en donne les moyens. Mais maintenant, ils pourront le faire d'autant plus facilement puisque ça sera les procureurs qui leur en donneront les moyens et ils pourront aller toujours plus loin parce qu'on sait très bien qu'ils, là, on parle de ces choses, mais ils ont toujours des longueurs d'avance pour du matériel qu'ils utilisent.
Et pour réexpliquer hyper rapidement la différence un peu fondamentale entre le juge et le procureur.
Oui, c'est bien.
C'est que le juge est théoriquement indépendant du pouvoir politique. Après il y a des intérêts de classe et tout ça, mais en tout cas il est pas lié hiérarchiquement au ministère, alors que le procureur si. C'est-à-dire que si le ministère décide quelque chose, il donne un ordre au procureur et le procureur exécute l'ordre. Avec un juge, c'est pas tout à fait possible. Le juge a une sorte d'indépendance et de possibilité de décider plus, lui, un peu en son âme et conscience, ce qui est bien et pas bien de faire.
Le procureur, c'est dans sa fonction d'être la représentation de l'État dans le tribunal, quoi.
De même que le préfet, enfin, dont j'imagine que tu risques de parler à un moment ou à un autre.
Oui, bah là, c'est pour les procureurs et les préfets, hein. C'est pour les deux. Et donc, sinon, les policiers pourront désormais fouiller les bagages et les voitures et contrôler l'identité de n'importe qui sur le seul ordre des préfets. Donc, fallait jusqu'ici une présomption d'infraction, vous voyez, ce qui est normal quand même, ou une autorisation sur un périmètre délimité, une durée limitée des parquets. Et donc, ce pouvoir revient au préfet maintenant et sera possible pendant 12 heures. Si l'on soupçonne des personnes d'activité terroriste. Bon, alors, vous croyez vraiment que ce sont des terroristes qui se font fouiller ou eux ou leur voiture le plus souvent en France actuellement? Bah, moi, je crois pas. J'aurais plutôt dit des personnes pas très blanches qui vivent dans certains quartiers, quoi, le délit de faciès, quoi.
Bon. Oui, mais vu que la terminologie terroriste laisse toute la place à la subjectivité, ben voilà. On est tranquille.
Par ailleurs, donc, les pouvoirs de la police vont être renforcés. La police pourra retenir une personne durant 4 heures, même si elle a ses papiers, et le temps de vérifier son identité. Vous voyez, à l'heure actuelle, des PC surpuissants, ils ont besoin de 4 heures pour vérifier ton identité, quand même. Bon, et il n'y a plus de distinction entre les majeurs et les mineurs, c'est pareil pour tout le monde. Et donc là, pareil, j'arrive pas trop à penser à des terroristes. Je pense à toutes ces personnes qui partent en manif et paf, qui se retrouvent 4 heures au poste pour vérif d'identité, pile le temps que rien ne se passe en ville, qu'il n'y ait pas la manif, puisque plein de gens, ou beaucoup moins de gens à la manif, puisque il y a un sous-sol réquisitionné. Bon, vous voyez, c'est déjà des choses qui ont été faites, mais qui peuvent être d'autant plus facilitées. Et aussi, par rapport aux gardes à vue, par rapport à cet article, je me suis rendu compte que moi, je ne le savais pas, alors je vous le dis, et qui c'est pas dans le texte, mais les gardes à vue sont de 144 heures pour soupçon de terrorisme, c'est-à-dire 6 jours, ce qui est quand même beaucoup, et 96 heures pour tout le monde. Et vous voyez, ils avaient progressivement, avant c'était 96 heures.
Quand ça?
Ça date de l'année dernière, parce qu'ils ont fait, il y a eu une réforme l'année dernière.
Mais 96 heures, c'est quand même pour délit grave ou des... Enfin, c'est...
En tout cas, avant, c'était 96 heures pour terrorisme, et maintenant, c'est un peu plus ouvert, quoi. Du coup, depuis une dizaine d'années, on va de plus en plus loin, mais même si on prend juste 96 heures, c'est pas simple de se retrouver dans une cellule qui pue la pisse 96 heures avec des flics qui traitent comme de la merde. Je veux dire, que ça soit 24 heures, 48 heures, 96 heures, je veux dire, juste ça, c'est déjà pas simple à vivre, même si c'est tout à fait supportable, mais voilà. Alors, sinon, le projet de loi assouplit les règles d'engagement armé des policiers au-delà de la légitime défense. Ah, voilà, ils pourront utiliser leur arme lorsque cela apparaît, je cite, absolument nécessaire pour mettre hors d'état de nuire une personne venant de commettre un ou plusieurs homicides volontaires et dont il existe des raisons sérieuses et actuelles de penser qu'elle est susceptible de réitérer ses crimes dans un temps très voisin des premiers actes. Alors moi, j'ai jamais vu un flic respecter vraiment les lois. À partir du moment où la légitime défense pour les flics, elle est augmentée, et ça veut dire augmentation des bavures policières, parce que c'est la réalité du terrain, quoi. C'est pas à défendre par de la théorie, c'est de la pratique. Et sinon, autre, c'est la création d'une assignation à résidence ou d'un contrôle administratif hors état d'urgence pour les personnes revenant d'Irak ou de Syrie. C'est spécifique, hein, deux pays. Ou seulement soupçonnés d'avoir tenté de se rendre sur un théâtre d'opération de groupement terroriste.
Voilà. Et du coup, en plus, là, je trouve, dans ce que tu dis, ça fait aussi des trucs où il y a des le mot soupçon, je trouve qu'il revient de plus en plus en ce moment, ou de plus en plus, genre si t'es soupçonné de, ça commence à être un délit, tu commences à pouvoir être condamné juste sur le fait d'être soupçonné alors que t'as encore rien fait, je veux dire. Je trouve que ça change quand même pas mal de trucs sur comment on condamne les gens et ce qu'est la justice.
Oui, c'est ça. Là, visiblement, il y a une sorte de mutation un peu de grand principe de droit depuis tout le temps. Là, c'est effectivement que la présomption, enfin que la présomption du fait que tu comptes commettre un délit peut déjà t'amener à ce que tu prennes des sanctions dans la gueule, ce qui théoriquement, dans le principe du droit, devrait pas être le cas depuis toujours, enfin depuis 200 ans, quoi.
Et pour revenir quand même sur ce dernier point, c'est quand même, ils sont forts de faire un aussi gros amalgame parce qu'en fait plein de personnes qui reviennent de Syrie notamment, où c'est la guerre, où plein de gens vont aussi lutter avec l'armée libre pour défendre des intérêts, par exemple comme des Kurdes, où il y a vraiment une énorme complexité, des dizaines de manières de se positionner en tant que faisant partie de la révolte et du coup je trouve que c'est complètement audacieux de pouvoir dire chaque fois qu'une personne elle rentre dans quel bord elle est allée lutter, et que c'est très dur à comprendre, et que je pense que les médias ils simplifient beaucoup la vision de la Syrie et que ça va dans le même sens, où tout le monde qui va sont forcément des terroristes, voilà, encore une fois, des amalgames débiles.
Voilà, et on parlera tout de suite après, un peu plus tard même, des fameux médias libres suggérés, peut-être, sur cette antenne.
Et alors, pour finir, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah oui, vous voyez, toutes les lois antiterroristes, elles sont pas nouvelles, elles datent depuis 20 ans, il y avait eu celle de Sarko, et puis je voulais rappeler qu'il y en avait une en novembre 2014 et celle sur le renseignement en juillet 2015. Et voilà, et là il y en a encore une nouvelle, donc ça fait quand même beaucoup. Là, si on passe à un rythme de deux par an, je sais pas où on en sera. Et donc, ce qui montre bien que le gouvernement de Manuel Valls est convaincu que la police dispose d'outils insuffisants.
Alors, une militante associative a été condamnée par le tribunal de Grasse à 1 500 € d'amende pour avoir facilité le séjour et la circulation de deux personnes sans papier. Alors ça, ce que je viens de lire là, c'est juste l'intitulé de la condamnation. Mais en réalité, le 13 juillet, Claire Marsol décide, avec plusieurs de ses potes de son association, d'aller voir ce qu'il se passe à la gare de Nice, où plusieurs sans-papes se retrouvent pour tenter de prendre le train et aller dans différentes villes de France ou d'Europe. Bien sûr, les flics étaient présents en nombre. On se souvient de ce moment-là de tension de chasse aux migrants particulièrement tendue cet été. Et du coup, voilà, donc les flics sont en nombre pour tenter de rafler les migrants. Et Claire Marsol se fait aborder par deux sans-papes érythréens qui lui demandent un coup de main pour éviter de se faire contrôler et donc embarquer. Elle décide donc de les emmener en voiture à la gare d'après, sûrement moins fliquée, pour qu'ils puissent prendre le train peinard. Donc quand même un geste relativement honorable, mais c'était sans compter sur une dénonciation d'un agent SNCF qui en 39 aurait sûrement réclamé de faire des heures sup pour conduire les trains, suite à quoi elle a été placée en garde à vue et perquisitionnée, et donc condamnée par le tribunal à une amende de 1 500 €, comme j'ai dit. Voilà, c'est très classe, hein, de la part de cet agent SNCF, hein, qui, on le rappelle, n'est pas flic, mais en tout cas dans l'âme, a priori, il a l'impression qu'il l'est. La loi du 31 décembre 2012, qui offre un semblant d'immunité aux personnes aidant des migrants dans un cadre très 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 restreint, aide à la bouffe, de l'hébergement, pour les conseils juridiques, mais aussi pour dans les cas où l'intégrité et la dignité des personnes sont menacées. Et bien là-dessus, le procureur, suivi donc par le juge, se sont assis sur cette loi et estimant que soustraire un sans-papes d'un contrôle d'identité qui avait bien des chances d'être musclé vu le contexte et qu'empêcher deux personnes qui ont fui leur pays de se retrouver en centre de rétention ne relevait donc pas de la sauvegarde de l'intégrité ou de la dignité des personnes.
Il faut dire que à l'époque où cette loi avait été votée, c'était Sarkozy et Hortefeux qui s'étaient engagés à ce qu'elle serve jamais à des gens qui, de bonne foi, faisaient vraiment de l'humanitaire. C'était pas les socialistes qui, eux, s'étaient engagés à rien et peuvent donc mener une politique bien plus répressive que Sarkozy, ce qui est pas très, enfin, ce qui est pas du tout la première fois depuis qu'ils sont élus.
Non, mais en fait, elle avait été réformée. C'est-à-dire qu'après, il l'avait passé d'une manière créneuse, il y avait eu plein de délits de solidarité, en fait, après, c'était des assauts. Et le Conseil européen qui avait fait le forcing pour qu'elle soit modifiée un peu, pour protéger un peu les militants, quoi. Mais voilà, comme a pu le dire notre camarade, elle est formulée de manière merdique.
Ensuite, ils nous ont dit ce qu'on dit dans ce bureau n'en sort pas. Et donc, on est là.
Alors, vous croyez que c'est pourri de vivre en France après tout ce qu'on vous a raconté? Ben, figurez-vous qu'il y a des gens qui vivent en Centrafrique. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qui leur arrive? Il leur arrive, entre autres, on va commencer par parler plus de ce qui serait peut-être un peu anecdotique, même si c'est un peu trash, et puis après on reviendra plus sur les élections. Mais la partie anecdotique, c'est que aujourd'hui, il y a de nouvelles accusations d'abus sexuels en Centrafrique sur des mineurs par les troupes d'occupation. Alors voilà, les victimes présumées sont 4 fillettes qui ont été soumises à des abus sexuels à Bangui et qui ont été interrogées par les enquêteurs de l'UNICEF. Le chef de la mission des Nations Unies à Bangui dit que dans le doute, nous prenons le parti des victimes, que les sanctions seront fortes dès que les responsabilités seront établies, parce qu'il est quand même ferme sur ce coup-là. Et il faut dire que l'ONU a annoncé avoir ouvert une enquête qui vise des casques bleus de 3 pays qui participent à la MINUSCA, donc la force des casques bleus en Centrafrique, sans préciser de quel contingent il s'agissait, ni combien d'hommes étaient impliqués. Mais selon les sources de l'ONU, il s'agit de soldats du Maroc, du Gabon et d'Égypte. Ouf, pourrait-on dire. Parce qu'on se rappelle qu'au mois de juin dernier, on a appris une affaire qui était déjà un peu ancienne et où c'était quand même plutôt des Français qui s'étaient rendus coupables d'abus sexuels sur des enfants. Alors là, un officier de la force française contacté au téléphone par l'AFP a affirmé n'avoir aucune connaissance de nouveaux cas impliquant la force Sangaris, donc l'armée française. Et l'affaire dans laquelle sont impliquées des troupes Sangaris est différente et elle est actuellement traitée à Paris. A précisé cette source en référence au récent scandale, blablabla. Alors on se rappelle que le scandale en question, ça date quand même du premier trimestre 2014, et pourtant c'est que fin avril 2015 qu'on en a eu connaissance. Au premier trimestre 2014, les enquêteurs de l'ONU, alertés par les bénévoles centrafricains, avaient recueilli des témoignages et informé l'armée française, qui bien sûr avait surtout fait barrage à l'information. Mais c'est le quotidien britannique Le Guardian qui avait sorti l'information en avril 2015. Là, branle-bas le combat. L'armée française et surtout l'État français, donc en l'occurrence François Hollande, était un petit peu obligé d'en dire quelque chose, quoi. Pouvait plus faire comme si ça n'existait pas. Et donc là, François Hollande, n'écoutant que son courage et la fermeté requise dans de pareils cas, a parlé de mauvais comportements, un peu comme des mauvaises habitudes, comme les soldats français se grattent le nez en public et violent des petits enfants. Voilà, ça c'est ce qui arrive quand c'est des soldats français, quoi. Et puis même, l'association Survie, elle écrit gageons que l'instruction judiciaire enfin engagée il y a quelques jours, donc ça c'était en juin 2015, va s'enliser indéfiniment. Comme celle qui avait été ouverte à la suite de plaintes de victimes rwandaises contre l'armée française, notamment pour des viols en 94. Si jamais un procès a lieu, on assistera sans doute au lamentable spectacle qui avait été donné pendant le procès des militaires français qui avaient lynché Firmin Mahé, ça c'était en Côte d'Ivoire, un prisonnier qui avait été convoyé et puis qui était arrivé mort, convoyé par des soldats français qui l'avaient juste buté pendant le trajet. Et donc ces soldats ont été... ont été jugés en France, et c'est à cette occasion on a vu le ministère public, c'est-à-dire le procureur, qui glorifiait les accusés. Survie continuait, de tels crimes sont appelés à se répéter, tant que l'armée française en Afrique restera au-dessus des lois, elle attirera irrésistiblement dans ses rangs pédophiles et autres criminels qui sauront pouvoir y trouver un sanctuaire d'impunité, grâce à l'active complicité des autorités civiles et militaires et des organes d'information. Voilà, bon bah ça c'est quand c'est des soldats français, hein, parce que là du coup... Sur les nouvelles accusations, on n'est pas tout à fait dans le même ton, on est dans le doute, nous prenons le parti des victimes et les sanctions seront fortes dès que les responsabilités seront établies. Deux poids, deux mesures. Alors, ceci dit, en Centrafrique, il n'y a pas que des petits-enfants qui se font violer, il y a aussi toute une constitution qui... Non, je vais arrêter comme sur ce ton-là. Mais voilà, le premier tour des élections présidentielles et législatives a eu lieu en République centrafricaine, c'était le mercredi 30 décembre, donc mercredi dernier. Ces élections avaient été reportées à 8 reprises, mais François Hollande, qui est le vrai maître de l'agenda politique en Centrafrique, a vraiment tenu à ce que le scrutin ait lieu avant la fin de l'année 2015, donc un jour avant la fin de l'année 2015. Quelle que soit la situation du pays, il espère que cette mascarade électorale fera oublier la triste situation dans laquelle se débat la population depuis 2 ans que l'armée française est présente sur les lieux. Alors la Centrafrique en est où ? La Centrafrique, c'est 500 000 personnes, c'est-à-dire un habitant sur 5, qui se sont enfuis loin de chez elles et qui n'osent toujours pas y revenir. La moitié de ces gens, de ces réfugiés, sont réfugiés dans des camps à l'intérieur du pays. L'autre moitié se trouve beaucoup dans les pays voisins, Tchad, Cameroun, République démocratique du Congo. Cette situation est l'aboutissement de décennies pendant laquelle les présidents centrafricains ont surtout servi à faire le relais de l'impérialisme français pour piller les richesses du pays et pour s'en foutre plein les poches eux-mêmes, mais quand même plus pour les partis politiques de gouvernement en France. Et tous les gouvernements français les uns après les autres, hein, droite, gauche, socialo, UMP ou quoi, les ont tous tenus à bout de bras. L'armée française est intervenue 7 fois depuis l'indépendance. Les élections qui viennent de se dérouler mercredi dernier donc changeront d'autant moins cet état de fait que de toute façon les principaux candidats ont largement participé à ce désastre. Alors c'est qui ceux qui ont une petite chance pour ces élections? Il faut dire qu'à l'heure qu'il est, on n'a toujours pas les résultats, hein, des élections, ça fait plus d'une semaine, mais d'autres articles, en particulier de la presse africaine, expliquent comment est-ce que la commission qui est chargée de dépouiller les votes est vraiment tellement complètement à la ramasse que de toute façon, quels que soient les résultats, ils seront pas du tout crédibles, quoi. En tout cas, là en l'occurrence, les gens qui sont favoris pour ces élections, c'est Martin Zingele et Anissé Dologele qui se sont succédés comme premier ministre de Ange Patassé, qui a été le président du pays de 1993 à 2003. Ils ont tous les deux été à la tête d'institutions bancaires africaines qui servent surtout de relais aux grandes puissances pour étrangler les pays pauvres. Et ils font partie de toute façon de cette espèce de vivier d'hommes politiques dont la France dispose pour pouvoir continuer à gouverner par délégation, à pouvoir gouverner les pays africains par délégation. L'armée française, au moment où elle est échappée, où elle est intervenue pour la dernière fois, donc la fameuse opération Sangaris en 2013, c'est le moment où la Centrafrique est échappée au contrôle de la France. À ce moment-là, il y avait eu cette coalition de groupes armés qui venait des régions musulmanes du nord-est du pays et qui avait réussi à renverser le dictateur qui avait à ce moment-là, François Bozizé, et c'est cette Séléka, donc cette coalition de groupes armés, faisait régner la terreur. Les troupes françaises sont arrivées et ont mis un peu au pas la Séléka, mais ça n'a pas du tout diminuer la terreur, puisque à ce moment-là, les milices anti-Balaka, donc censément chrétiennes, mais en réalité, ces histoires de chrétiens et de musulmans, c'est juste une sorte de marqueur identitaire, mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout de guerre de religion. Mais donc, à ce moment-là, les autres milices sont rentrées dans Bangui en même temps que les troupes françaises et ont attaqué les quartiers musulmans, elles ont assassiné, elles ont pillé. Elles étaient encadrées par d'anciens soldats de l'armée centrafricaine qui disaient qu'il fallait se défendre contre une invasion islamique, etc., etc. Bon, bref, les anti-Balaka d'un côté, les Séléka de l'autre, escalade de violence intercommunautaire, partition ethnique finalement, alors que ça a vraiment été créé par une sorte de truc qui au départ relève plutôt d'une guerre de bande, quoi. Et depuis, la seule évolution pour la population, ça a été l'éclatement aussi bien de la Séléka que des anti-Balaka en plein de petits groupes, dont le seul point commun est de vivre du racket de la population. Les jours de marché, les miliciens rançonnent les paysans qui viennent vendre leurs produits au village. Ils érigent des barrages sur les axes routiers et fluviaux pour taxer ceux qui se déplacent. Les enlèvements, les assassinats, c'est vraiment le lot quotidien. Et de toute façon, ces gens qui à un moment étaient quand même plus chrétiens ou plus musulmans, entre-temps, ils en ont rien à foutre. Ils sont vraiment là que pour le racket et le pognon. Et du coup, ils attaquent aussi bien les gens qui sont censés être de leur propre communauté, ceux dont ils se proclament les protecteurs. Mais dans ce chaos, la Centrafrique va avoir un président élu, donc légitime, pour que le pillage du pays par l'impérialisme se perpétue. Et c'est pourquoi François Hollande se réjouit que ces élections aient finalement eu lieu. Voilà, c'est la. Là, j'ai à peu près lu un article hyper bien de Lutte Ouvrière.
Voilà, 2016, c'est aussi peut-être le moment de s'auto-suggérer, de suivre d'autant plus les médias libres, un petit peu comme celles et ceux qui écoutent Radio Canu. Il n'y a pas que Radio Canu, il y a un certain nombre de ressources qu'on peut trouver en ligne, en particulier Acrimed, Action Critique Média, qui nous propose, juste pour vraiment faire écho à cette qualité des médias libres, l'inverse, nous propose un certain nombre de unes qu'on a retrouvées dans la presse régionale 2015. Alors je vous en cite quelques-unes hein, qui valent quand même des points. Presse Océan, le corps incinéré n'était pas le bon, donc ça c'est la une en grand. Nord Éclair, policiers et chevaux font connaissance. L'Est républicain, l'évadé de Besançon retrouvé en prison. Donc j'insiste, hein, c'est les gros titres d'une presse qui de nouveau sert à endormir un tout petit peu quand même. Alors le journal de Saône-et-Loire, flashé à 65 km/h au lieu de 90. Vaucluse et Dos, le bébé était pressé. À 80 et 87 ans, ils font fuir le braqueur du loto. Le Maine, c'était le journal du Maine.
Ça donne envie de les lire, non ?
Ça a l'air un peu. Je vous en donne un dernier quand même. Le Bien Public, ça doit être un journal aussi.
C'est intéressant.
Un chasseur attaqué et blessé par un cerf. Donc je termine quand même par. J'insiste pour préciser que ce sont les unes hein, de ces journaux. Midi Libre, Montpellier, le chien dévore son maître mort. Voilà. Donc. Un ensemble de une pour rigoler un tout petit peu, pour illustrer finalement la pauvreté de certains médias. Et on peut peut-être faire un rapport, une corrélation entre la pauvreté parfois intellectuelle de ce qui est dit et l'audience. Et c'est pour ça que ça vaut peut-être le coup de se s'auto-suggérer, de lire un petit peu des sources déviantes, divergentes, discordantes. Alors là, je vous parlais donc de ce papier qui est sur Acrimed, donc Observatoire des médias, Action Critique Média, qu'on trouve en ligne. Mais il y a quelques portails qui peuvent vous permettre d'avoir accès à un certain nombre d'agglomérats d'articles intéressants. Alors, qu'est-ce que c'est un portail ? Vous savez bien, hein, c'est un site où vous pouvez avoir les informations boursières, les informations météorologiques, avoir des liens vers des super partenaires avec des bandeaux imbéciles pour vous faire acheter des pizzas ou des trucs complètement inutiles. Non. Je vous rassure, c'est d'autres types de portails qui existent. Alors, il y a un portail qui est proposé par Bastamag, c'est portail.bastamag.net. Alors, qui relaie un certain nombre d'articles de sources que je vous invite à étudier dans cette année 2016. Alors par exemple Acrimed, Alternative économique, article 11, Ballast, Basta, CQFD, le Fakir, Éco Breton, je connais pas tout et tout n'est pas forcément de votre ou notre goût, la Rotative, le Courrier, le Postillon, etc. Donc voilà des journaux en nombre que l'on peut lire au travers de ce portail. De la même façon, il y a un site qui s'appelle réseau.net qui pareil agrège un certain nombre d'articles d'Amnesty International, d'Acrimed, d'article 11, du Jitsi et d'autres ressources de l'Observatoire des multinationales de rébellion. Bref, de regard aussi, Radio Grenouille, bref, des contenus pour s'aérer un petit peu la tête quelque part, et aussi, une fois qu'elle est bien aérée, la remplir de d'autres actualités un petit peu différentes. Alors, je vous donne une illustration, par exemple, de ce que l'on peut trouver dans un canard qui s'appelle l'Observatoire des multinationales. Il nous parle de Perrinco. Et en fait, on ne connaît pas Perrinco. Ben, Perrinco, c'est une discrète compagnie pétrolière française qui est la propriété de la 13e famille la plus riche de France. Hein, donc, ils gagnent, alors je crois que c'est 6 milliards d'euros par an, c'est ce qu'ils doivent déclarer ou pas, je ne sais pas. Et alors, Perrinco, eh ben, ni une ni deux, ils exploitent du pétrole du côté de la Colombie. Alors, plus exactement, ils rachètent des pans entiers de l'industrie pétrolière qui sont tout pourris. Et puis, ils les refont travailler pour réextraire un petit peu du pétrole. En général, c'est tellement pourri que ça casse. Et du coup, eh bien, même si de base, l'industrie pétrolière est excessivement, pénalisante pour l'environnement, il faut savoir quand même qu'il faut 9 tonneaux d'eau pour faire un tonneau de... On dit pas un tonneau de
un baril.
Un baril, merci.
Baril.
Donc, il faut 9 barils d'eau pour faire un baril de pétrole. Bref, c'est des catastrophes écologiques de tous les côtés, dans cette partie, en tout cas, la Colombie. Alors, voilà, on peut retrouver ça sur le site de l'Observatoire des multinationales, Perrinco. Et on nous précise aussi, et je terminerai par ça, qu'il y a des gens qui sont tout simplement assassinés parce qu'ils se sont érigés contre cette exploitation des terres, cette pollution des terres du côté de la Colombie. Et puis, ils se sont exprimés, érigés. Il y a deux leaders locaux de cette lutte qui ont été tout simplement zigouillés. Le dernier, c'était le 13 novembre dernier. Voilà, donc c'était une suggestion assez forte pour des lectures inspirées pour 2016.
Eh bien, pour ma part, c'est un peu plus vulgaire, mais moi, je trouvais que c'était le bon vieux temps quand on avait tous les chiffres dans tous les médias des voitures brûlées le premier de l'an. Et c'était aussi les unes, voilà. Et voilà, encore une connerie de Sarko qui a supprimé ça. Maintenant, bah, si on les cherche, on finit quand même par les trouver. Moi, je les ai trouvés que sur deux sites, c'est-à-dire Le Figaro et un site identitaire.
Moi, je l'ai vu sur un site classique où il y avait un graphique assez sympa avec une très grosse voiture l'an dernier et puis une voiture un peu plus petite qui suggérait qu'il y avait eu 100 bagnoles de moins qui avaient été explosées cette année, mais tu vas nous confirmer ça.
Mais oui, c'est ça, puisque selon le ministère de l'Intérieur, ce sont 804 véhicules qui ont été incendiés. Cela semble une moyenne basse quand même, parce que je crois qu'ils n'ont pas tout relayé, mais bon. Et il y en avait eu 940 lors du passage en 2015. Et ben voilà, en tout cas, pas de record cette année, dommage. Mais comme c'est moins relayé, c'est... Ça donne
mauvaise
plus
année
envie.
Jean-Pierre, a-t-on une idée des causes peut-être
des causes structurelles?
Eh ben oui, mais je pense que comme c'est moins relayé dans les médias, ça donne moins envie de faire le défi de dépasser le score de l'année d'avant.
Alors Radio Canu est là, et l'année prochaine, on relayera ce qui se passera dans votre ville, donc sentez-vous concerné pour le 31 décembre de l'année prochaine, on relayera ville par ville.
Donc, pour que ça soit un peu plus rock'n'roll et que c'était juste une intro, je voulais parler de Leipzig, où pour la Saint-Sylvestre, il y a des voitures de la douane qui ont été détruites. Et en tout cas, des personnes ont revendiqué cet acte-là pour des motifs politiques. Donc, ils disent que c'est quelques voitures de la douane, mais ça fait autour de 200 000 euros de dégâts minimum, qui ont été incendiés en solidarité avec toutes les camarades qui sont visés par la répression, qui ne peuvent pas être chez eux et qui sont en guerre perpétuelle avec les États et la répression des États. Ils ont choisi la douane comme institution qui exécute les ordres du ministère allemand des Finances. Ils savent très bien qu'il y a d'autres gens à attaquer et que là, ils ont choisi une cible en particulier. Ils veulent mettre des bâtons dans les roues à chaque occasion qui s'offre. et ils finissent en déclarant « Nous souhaitons à toutes les compagnons compagnonnes une nouvelle année combative et pleine de force à ceux qui sont poursuivis par les autorités répressives pour survivre ces temps-ci. » Et ils signent « Des amis du travail au noir ».
Une petite pause musicale dans la thématique.
Pigalle, samedi minuit, capote, saloperie, carotte. Danser ce soir, Mephisto à la côte. Miséricorde à ceux qui vont profiter. Et à quelques pas de là dans les cités. Ça pue la merde, ça sent l'herbe. Les gens sont comme des cerfs dans le quartier. Veulent quartier Lacoste, Ralph sont claqués, beaucoup sont claqués. Des bombes CRS, des militaires. À mort les porcs en décor sur les murs dehors. 3, 2, 1, si étudie le terrain. 1, 2, 3, ça sent le soufre et le dawa. Réalité dans l'escalier, le petit sous télé grandit. Vie du camé, amené au calné planté. Tu me pousses, le push qu'à tous, nos vies et nos bourses. Tracé, y passer ou tout casser. Tes grands plans MJC, AC. Le million, le million. On s'envenime pour peser dans ton corps l'autre nuit. Les flammes du mal ont frappé la décide. Le temps des mots terminé, prier c'est grillé. Là-haut ça répond pas donc on s'allie au diable. Comme Attila, on va dessiner ci et là, prendre par le sabre. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule.
Et oui, désolé, on coupe, mais après, le temps nous est compté. C'était donc Passy avec les fleurs du mal.
Et on les flammes du mal.
Les flammes du mal, oui, pardon.
Les flammes du mal, c'est un autre.
Et on va enchaîner sur une petite brève du côté des États-Unis, où une entreprise américaine du doux nom de American Future System, ça fait rêver, hein, qui n'est rien d'autre qu'une boîte de centre d'appel téléphonique, vous savez, ceux qui vous appellent pour vous démarcher, ou alors que vous appelez comme service de dépannage, ou tout comme ça. Alors, donc, cette entreprise avait décidé depuis 2009 de réduire les salaires des personnes qui allaient aux toilettes pendant leurs heures de boulot, hein, ces salauds, feignants, et qui, bien sûr, aussi réduisaient leur salaire s'ils prenaient une petite pause, hein, tout simplement. Mais voilà, mais du coup, les 6000 employés ont réussi à faire plier leur boss suite à une action de justice qui a été condamnée à payer 1,75 million de dollars, donc à se répartir, à diviser par 6000, hein, quand même. Voilà, en gros, je crois que c'est la compensation de leurs heures pas payées, hein. Je sais pas trop s'il y a eu un petit plus ou quoi. Mais pour info, quand même, aux États-Unis, un employeur n'est pas obligé d'octroyer une pause à ses salariés. C'est pas du tout une obligation légale comme en France. Mais si les salariés ont la possibilité de faire cette pause, elle ne peut pas être retenue sur leur salaire. Donc là, en l'occurrence, le boss disait, vous pouvez aller pisser juste, vous aurez moins d'argent, ce qu'il n'avait pas le droit. Il aurait juste dit, vous pissez dans une bouteille, vous faites pas de, voilà. Voilà.
Bah c'est chouette qu'ils aient gagné en tout cas.
C'est à toi.
Ouais, alors c'est pour rebondir sur une espèce de petit mouvement qui se passe du côté de l'université d'Oxford qui s'appelle Rhodes Must Fall. C'est une histoire de statue à la base et je pense que ça vaut un petit peu le coup de creuser puisque c'est la statue d'un homme qui est ultra raciste qu'il faut démonter et ça vaut peut-être le coup de parler de ce gars-là. Alors, donc ça fait quelques semaines hein, déjà qu'à l'université d'Oxford, il y a des troubles qui ressemblent très fort à ce qui se passe au Cap. C'est que les étudiants veulent se débarrasser de la statue de Cecil Rhodes. Voilà, donc je vous le donne en mille. Je vous l'explique, hein, c'est vraiment l'archétype du raciste notoire. On va commencer par ce qui s'est passé du côté du Cap. C'était plus au printemps-été de cette année, enfin de l'année 2015. Eh bien,
le Cap, on est d'accord, on est en Afrique du Sud.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça se passe du côté de l'université du Cap, dans le sud de l'Afrique du Sud. Eh bien, l'université du Cap, c'est une bonne université, une grosse université. Et il y a eu des protestations. manifestation donc autour du mois d'avril-mai avec des étudiants et des universitaires qui se sont mobilisés contre l'héritage colonial de cette institution, l'Université du Cap. Et ça s'est cristallisé sur justement la statue de ce monsieur Rhodes, Cecil Rhodes. Rhodes must fall. Alors juste quand même pour rappeler que l'université le campus autour de l'Université du Cap, c'était quand même un endroit historiquement assez progressiste, mais eh bien quand même, tout ce qui est composition du corps enseignant d'un point de vue du sexe et de l'ethnicité reflète toujours le passé discriminatoire du pays de l'Afrique du Sud. Il y a près de 90% des professeurs à plein temps qui sont des hommes blancs. Voilà. Donc, ça bouge autour de cette statue à démonter. Alors, Cecil Rhodes, pour enfin dire de qui il s'agit, Cecil John Rhodes, eh ben, c'était un peu l'archétype de l'impérialiste anglo-saxon de la seconde moitié du 19e siècle. C'est un homme d'affaires. Déjà, ça commence par des histoires de brousouf. Donc, c'est un homme d'affaires anglais qui s'est dit qu'il allait investir très tôt dans l'industrie minière sud-africaine. Donc, il est parti sur des gisements de diamants. Et puis, c'est dans ce contexte qu'il a créé une entreprise, De Beers, qui est aujourd'hui le premier exploitant diamantaire de la planète, quand même. Donc voilà, ça commence comme ça. Alors l'homme était carrément déjà richissime, et puis de fil en aiguille, en 1890, pif paf pof, il est devenu premier ministre de la colonie du Cap, à la pointe sud-ouest du continent, et il a libéralisé le marché du travail, par exemple, il a contraint la population noire à s'urbaniser et à constituer la main-d'œuvre bon marché, qui était nécessaire évidemment au développement minier. Et puis, il a reçu dans le même temps le soutien, donc en 1889, de la reine Victoria. Et il a fondé la Compagnie britannique d'Afrique du Sud, financée à grande échelle de fonds privés. Et puis, ça a été le début, de la grande colonisation de cette partie sud de l'Afrique. Alors, c'est un long processus qui a commencé donc du côté de l'Afrique du Sud. Et puis, il est remonté vers le nord, du côté notamment du Mashonaland, qui est aujourd'hui le nord Zimbabwe. Et puis, il s'est installé aussi dans des... il a conquis des territoires, donc pas loin du fleuve Zambèze. Et il a donné des noms, par exemple, la Rhodésie du Nord. Vous avez sûrement entendu parler de ça. La Rhodésie du Nord, c'est l'actuelle Zambie. Et la Rhodésie du Sud, c'est l'actuelle Zimbabwe. Rhodésie. Donc c'est bien ce gars-là, Rhodes, qui a mis en place cette colonisation. Et puis il est très très fort, puisque il a aussi, c'est lui un petit peu le père de l'apartheid, c'est le père de tout ce qui est un petit peu système de ségrégation qui a été mis en place là-dessus. Ce bonhomme-là, on aimerait bien un petit peu l'oublier. Et imaginez donc à l'Université du Cap, cette statue de Cecil John Rhodes qui surplombe les terrains de rugby. Eh bien, les étudiants de cette université, ils n'en veulent plus. Alors, je vous ai parlé d'Oxford. Ben, Oxford, c'est un peu la même chose. Il y a cette statue. Parce que lui, il a accumulé une énorme fortune, et puis il avait légué 2% de cette fortune à l'université d'Oxford. Donc finalement, l'université d'Oxford, elle aime pas mal, elle aime bien cet homme-là, quelque part. Enfin, en tout cas, son histoire pourrait laisser croire. Et puis, elle a mis cette statue-là. Alors, juste pour un petit peu de cynisme, si vous vouliez étudier ce qui s'est passé au niveau de l'impérialisme britannique, c'est dans le bâtiment qui s'appelle Rhodes qu'il fallait aller chercher les documents. Donc c'était un peu comique. Donc voilà, de nombreuses personnes s'élèvent contre cette présence de cette statue qui est, disons, un petit peu un mythe. Ah, il y a d'autres personnes qui disent que, quand même, une statue ne peut pas être raciste. Donc pourquoi la déboulonner, puisqu'une statue ne peut pas être statique. Juste pour finir, c'est un historien du côté de King's College London qui continue dans cette histoire-là à nous préciser que finalement, du côté de l'Angleterre, il n'y a pas eu énormément d'historiens ou de gens qui se sont tournés vers la question coloniale du côté de l'Angleterre. Donc c'est quand même plus fréquent, nous dit-il, du côté de la France. Et les liens entre la Grande-Bretagne et ces grandes années de colonisation sont pas forcément énormément étudiés. Il y a plus un rapport des questionnements autour de tout ce qui touche à l'esclavage qui est étudié, avec en particulier l'établissement que certaines richesses de certaines familles sont encore bâties sur l'héritage de l'esclavage du côté britannique. Voilà, c'était donc Roads Must Fall. Et juste pour partir sur un éclairage musical sur ces régions-là, une petite suggestion de nettoyage des gourdes à coup de bonne musique. Il y a des compilations qui sont sorties sur le label Strut qui s'appelle Next Step Soweto, qui rétablissent un petit peu toute l'histoire de la musique des années 70 dans Soweto. Donc ça, c'est disponible dans les très bonnes médiathèques du coin, par exemple. Et également le Zamrock. Zamrock, c'est le rock psychédélique de Zambie qui sévissait entre les années 73 et un peu plus, qui, pareil, mérite d'être exploré avec des compilations aussi disponibles dans les médiathèques de nos régions.
Eh bien, bonne transition culturelle, puisque je vais vous parler très rapidement, comme on a peu de temps, du Croiseur. Le Croiseur, c'est une salle à Lyon, là, dans le 7e, dédiée aux jeunes créations théâtrales et danses, consacrée aussi à la formation, qui ont des formations, et qui font bien sûr du spectacle, et qui ont vu leur subvention pour 3 ans qui n'a pas été versée. Et donc, ça les met considérablement dans la mouise, puisque ça va, puisqu'il y a une équipe salariale.
C'est des subventions de la mairie?
De la DREC. Et donc, ça les empêche de fonctionner. Et donc, voilà, ils sont en péril. Et donc, ils racontent toute leur histoire sous la forme d'un mauvais conte de Noël, qui est écrit d'une manière très très imagée sur un site internet où il est possible aussi de faire un don. Donc eux, ils demandent pour cette année, qui est la subvention qu'ils avaient divisée en 3, 37 000 euros. Donc ce qui est un chiffre absolument énorme, et pour continuer à fonctionner. Et donc vous pouvez retrouver toute l'histoire là, tout le compte, plus plein d'autres informations sur une plateforme qui s'appelle litchi.com, LEETCHI.com, et l'article, c'est Le Croiseur en danger. Voilà. Et bien si vous avez un peu de thunes, n'hésitez pas à participer à cette appel à argent.
Voilà, on peut rester dans les suggestions d'action avec ce qu'il faut faire, ce que vous allez faire.
T'es un poteau.
Non, je voulais mettre un adjectif après et je l'ai pas trouvé. Bonne suggestion d'aller du côté du samedi 9 janvier s'agiter contre cette magnifique choucroute garnie qui est envisagée par le gouvernement socialiste, à savoir l'aéroport des Landes, de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, on peut en parler autour de cette table, mais vous devez auditeur, auditrice, savoir que c'est un projet d'une inutilité invraisemblable, qui est en plus donc aux mains de Vinci. Donc voilà. Donc il faut se rendre. Donc c'était une journée qui était initialement prévue, d'action qui était initialement prévue le 16 et qui est donc reportée à samedi.
Et donc pourquoi ils mettent cette journée d'action en place? C'est qu'ils veulent donc rétablir encore une fois un rapport de force. Parce que donc tous les paysans et les personnes habitantes sur la zone depuis des décennies se voient expropriés de leur maison, c'est-à-dire que même s'ils sont propriétaires des terres, quand des gros groupes reprennent des choses, tout est possible. Donc du jour au lendemain, ils vont se faire expulser de leur baraque, de leur maison. Et donc là, c'est la manif du 9 janvier, c'est justement pour résister contre donc les expropriations de terrain. Et ça risque d'être d'une manière encore plus rigolo que d'autres manifs où il s'agissait que de squatteurs. Enfin, il y avait déjà pas mal de paysans, mais là c'est beaucoup de paysans qui sont en colère, donc ça risque d'être détonnant.
Et on a utilisé l'adjectif autoritaire. Justement, Valls risque de se montrer encore plus autoritaire sur ce dossier-là pour bien montrer qu'il est vraiment balèze et éventuellement qu'il pourrait avoir un destin pour 2017. Donc voilà, c'est vraiment glauque cette histoire.
Je voudrais lui montrer que c'est pas le cas.
Hein?
Il n'y a plus qu'à lui montrer par toutes les manifestations que c'est pas le cas.
Ouais, ouais. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil à d'autres luttes un petit peu connexes avec un article que vous pouvez retrouver sur le site regard.fr qui parle d'Éric De Luca. Donc Éric De Luca, vous devez le connaître, c'est donc un auteur qui avait été accusé d'incitation au sabotage contre le projet de TGV Lyon-Turin, parce qu'il avait dit les sabotages sont nécessaires pour faire comprendre que le TGV est une œuvre nuisible et inutile. Il avait entièrement raison. Et finalement, donc c'était il y a.
Toi, tu profites que t'es pas en Italie pour te dire des trucs pareils en public. Hein.
Voilà, et ben je le dis. Et effectivement. Il avait été il a été relaxé il y a quelques mois.
Par un tribunal italien.
Par un tribunal italien.
Et ben voilà, il est 19h58, le Canu Info touche à sa fin.
Et ben tout à fait, on se retrouve la semaine prochaine.
Et en attendant, on va laisser quelques minutes de bande continue, le temps que Idée Noire s'installe dans le studio. Idée Noire, c'est l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Bonne soirée.
Ciao.
Si vous aurez écouté.